Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez tout de suite, l'émission Un moment pour la Terre. Avec Pierre Frappa, entomologiste et membre de France Nature Environnement, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler des insectes et de nouvelles toujours pas trop réjouissantes, c'est ça?
Oui, pas très réjouissantes, mais si on en parle, c'est aussi pour essayer d'éviter que...
L'éviter
le pire. Voilà. Alors, donc oui, moi, je voulais... ça me paraissait un sujet important parce que, d'une part, il reste d'actualité, d'autant plus qu'il y a quelques événements scientifiques récents qui le remettent à la une, hein, au moins d'une certaine presse. Donc c'était un peu le moment d'en parler, même si ces éléments-là n'ont pas atteint forcément toutes les personnes qui pourraient être intéressées, quoi. Donc essayer d'élargir un peu cette audience-là. L'idée, donc, c'est un peu de réhabiliter les insectes. Hein, parce qu'on sait qu'ils ont mauvaise presse auprès de beaucoup de gens. Moi, bon, je dirais un peu dans une espèce de boutade un peu triste, quoi, hein, que c'est à la fois une nécessité, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, et puis en même temps, des fois, je me dis que c'est peut-être une cause perdue, donc, mais bon, voilà, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, hein, ou de réussir pour entreprendre, donc allons-y. Voilà. Donc, le premier élément que je voulais souligner, qui est peut-être le plus connu, c'est-à-dire que c'est l'importance numérique des insectes, numérique en nombre d'espèces, en variété. Hein, pour fixer les idées, on peut donner deux chiffres. Hein, le premier, c'est le nombre d'espèces aujourd'hui connues. On peut parler en France parce que c'est peut-être pas forcément la peine de parler du monde où forcément les chiffres vont être forcément multipliés, mais on compte aujourd'hui à peu près 35 000 espèces en France, 35 000 espèces d'êtres vivants de façon générale, et excusez-moi, je me tombe sur 35 000 espèces d'insectes vivants sur environ 10 fois plus, hein, à travers le monde, quoi. Donc, on a... donc, ces 35 000 espèces, ça représente, en fait, plus de nombre d'espèces que de toutes les autres réunies. Il y a plus d'espèces d'insectes que de toutes les autres espèces réunies. Donc ça donne une façon de fixer un ordre de grandeur, quoi. Voilà, alors ça, c'est le premier niveau de cette importance-là. Alors. Et puis, il y en a un autre qui est, en fait, plus important encore, c'est la place des insectes dans les écosystèmes. C'est-à-dire, quel est leur rôle au pluriel, hein, mm-hmm. Sachant que, vu leur diversité, leur nombre en termes d'espèces, leurs fonctions sont considérables. C'est-à-dire qu'ils ont une diversité de fonctions qui est à l'image de la diversité des espèces. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi de leur abondance, hein, l'importance de leur abondance en nombre d'individus. Ce qui fait que les insectes sont à la base de tous les écosystèmes, d'une part parce qu'ils sont la nourriture de quantité d'autres animaux, hein, de la plupart des autres animaux même, parce que vu leur nombre, hein, à peu près tous les oiseaux se nourrissent au moins partiellement d'insectes, voire exclusivement. Les amphibiens aussi, les reptiles aussi. Hein, quand je dis insectes, là, j'entends plutôt insectes au sens large. J'y inclus aussi des araignées qui ne sont pas des insectes, hein, mais qui en ont.
Ah oui, qui font partie de quoi, les araignées?
Alors, les araignées, c'est un groupe, autrement, qui font partie des arachnides, hein, avec les scorpions et quelques autres groupes moins connus, hein, qui se distinguent des insectes à première vue sur le nombre de pattes. Les insectes ont 3 paires de pattes, les arachnides en ont 4. Hein. Mmh. Voilà. Donc, et non pas d'antenne. Voilà. Mais dans les fonctionnements, dans le fonctionnement des écosystèmes, on peut les assimiler à des insectes, même si en disant ça, je fais bondir quelques collègues. Hein, voilà. Donc, dans les chaînes trophiques, dans les chaînes alimentaires, ils ont un rôle absolument essentiel. Ils ont un rôle essentiel aussi dans la pollinisation. C'est un sujet dont on parle beaucoup, notamment à travers les abeilles et, les risques qui pèsent sur les abeilles. Ils ont aussi un rôle essentiel dans la régulation des populations d'insectes. C'est-à-dire qu'il y a, parmi les insectes, de nombreux prédateurs, de nombreux parasites d'autres insectes. Ce qui a un effet, par exemple, sur les ravageurs des cultures. C'est un des outils utilisés dans l'agriculture biologique. C'est d'utiliser la prédation et le parasitisme pour lutter contre les ravageurs des cultures. Et dans la nature, je dirais, ce phénomène-là se produit évidemment de façon naturelle. C'est-à-dire qu'il y a à peu près toutes les espèces d'insectes sont parasitées et en grande partie par d'autres insectes. Donc cet facteur de régulation est aussi extrêmement important. Et il y a une autre fonction qui est aujourd'hui malheureusement beaucoup négligée. On en a parlé cet été, notamment à FNE ici, en parlant du sol, puisqu'on avait ce sujet-là était à l'ordre du jour. C'est que les insectes jouent un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la qualité des sols. Alors il y a les vers de terre qui ne sont pas des insectes. Certes, qui sont essentiels aussi, mais il y a aussi beaucoup d'insectes et d'autres arthropodes qui jouent un rôle dans le recyclage, notamment des matières organiques. C'est-à-dire, c'est eux qui contribuent très largement à la décomposition de la matière végétale, des feuilles, des racines, etc., mortes, pour recycler tout ça dans la qualité des sols. Voilà. Donc, on voit que c'est un élément des écosystèmes qui est extrêmement important, quoi. Donc qui vaut la peine, du coup, qui vaut la peine qu'on en parle, quoi. Alors, je disais tout à l'heure qu'on est un peu dans l'actualité. Alors, dans l'actualité, parce qu'il y a deux sujets, je dirais, de travaux de scientifiques qui sont... Alors, souvent, les scientifiques mènent leurs affaires dans leur coin, et puis, bon, on n'en entend pas beaucoup parler, forcément, dans le grand public, je dirais. Là, il y a eu deux événements, je dirais, un peu, ou de communication scientifique qui ont émergé, je dirais, et qui ont un lien avec, assez direct, je pense, avec le sujet dont on parle. Le premier, c'est une étude qui a été publié au mois d'octobre par des chercheurs allemands qui montrent que sur une étude de très longue, puisque ça a duré 27 ans, depuis 27 ans, ils ont mis en place un protocole qui a été suivi donc, pendant toutes ces années sur des lieux bien déterminés, etc. Et ils ont pu montrer que dans des régions, dans des grandes régions agricoles, il y avait des espaces protégés, mais au milieu de zones agricoles, ils ont montré que 80% des insectes volants ont disparu.
Alors ça, c'est absolument énorme.
Alors, c'est à 80%, on se dit,
c'est énorme, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est les insecticides qui...
Alors, il y a une petite précision avant d'en arriver aux explications, quoi.
Pesticides, je voulais dire.
C'est-à-dire qu'en fait, on est là sur une étude un peu particulière par rapport à ce qu'on a vu auparavant, en termes d'études scientifiques de cette nature. C'est que ils ont travaillé sur les masses, c'est-à-dire sur les biomasses d'insectes. Et auparavant, on travaillait sur les espèces. C'est-à-dire qu'on nous pose souvent, d'ailleurs, la question, moi, on me l'a posé souvent, est-ce que vous connaissez une espèce d'insecte qui a disparu? Je ne sais pas répondre à cette question, parce que les insectes, contrairement aux rhinocéros ou aux girafes, quand il est là, on le voit. Les espèces d'insectes, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Surtout qu'on a affaire souvent à des espèces de très petite taille. Donc, est-ce qu'il y a des espèces qui ont disparu? Peut-être. Il y en a sans doute qui sont en voie de disparition. Mais ça, on n'en sait trop rien. Mais par contre, ce qui est nouveau dans cette étude-là, c'est qu'ils ont travaillé sur, en ne se préoccupant pas forcément de l'espèce dont il s'agissait, mais de la masse qu'elle représente, donc du nombre d'individus, indirectement. Et c'est là, on voit tout à l'heure, quand je parlais de l'importance des insectes dans les écosystèmes, on voit que c'est un problème, que la question de la masse est plus importante que celle de l'espèce. Même s'il ne faut pas négliger la diversité des espèces et donc des fonctions. Mais pour les chaînes alimentaires, par exemple, les oiseaux sont assez peu sélectifs sur ce qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser. Ils ne vont pas choisir les espèces rares. Ils vont manger ce qu'il y a. Mmh. Les mésanges ne sélectionnent pas les chenilles avec lesquelles elles vont nourrir leurs petits sur le fait que c'est des espèces rares ou pas. Elles vont au contraire se nourrir essentiellement des espèces communes. Donc, si toutes les espèces diminuent, on va avoir une diminution importante de la disponibilité alimentaire à l'intérieur de ces chaînes alimentaires. C'est pareil pour la pollinisation. Le nombre d'individus, le nombre d'abeilles ou de bourdons qui vont aller polliniser est aussi important pour savoir si la pollinisation se fait correctement. Si le nombre diminue, indépendamment de l'espèce dont il s'agit, si le nombre diminue, la pollinisation diminuera d'autant. Voilà, et on est, pour tous ces cas de figure, on est dans le même cas, je dirais, quoi. C'est-à-dire qu'on est... Donc ce travail sur les masses est important. Et il est relativement nouveau. Donc ça, c'est un élément. Alors après, j'en viens sur les causes, puisqu'on me posait la question. Mm-hmm. Alors, l'étude, comme elle s'est étalée sur une durée relativement longue, hein, sur 27 ans, c'est quand même pas négligeable, et qu'ils ont... c'est un vrai travail. Hein, il y a un article qui fait, je ne sais plus combien, une vingtaine de pages avec des graphiques, des graphes. Donc voilà, on ne reviendra pas forcément là-dessus, dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu étudier de nombreux facteurs. Ce qui leur a permis d'éliminer un certain nombre de ces facteurs. Alors, il y en a qui ont sans doute un effet, mais qui ne l'est pas apparu déterminant. Comme le changement climatique, par exemple, qui est effectivement un effet dans cette régression, mais qui n'est pas le plus important. Il y a la perte de biodiversité, de la biodiversité végétale, qui est aussi un facteur, mais qui n'est pas le plus déterminant.
Alors, quel est le plus déterminant ?
Le plus déterminant, voilà.
Si vous voulez citer d'abord tous ceux qui ne sont pas déterminés, voilà. ça nous met en haleine.
Voilà, la température, etc. Oui. Mais le plus évident, c'est le changement des pratiques agricoles. Alors, quand on dit changement des pratiques agricoles, on pense tout de suite aux insecticides, etc. Alors, c'est un facteur. Mais il y en a aussi d'autres. Il y a aussi l'intensification, en général, de l'agriculture. Donc la modification des pratiques culturales, de l'usage, de ce qu'on peut dire, l'approfondissement des labours, etc. Il y a un élément important aussi, c'est la disparition des marges de culture, c'est-à-dire l'agrandissement des parcelles. Parce qu'en fait, entre les parcelles agricoles, quand vous avez une bande qui reste non cultivé,
oui.
C'est un espace de liberté, je dirais, pour nombreux animaux, et en particulier des insectes, qui ensuite, d'ailleurs, vont disséminer dans le champ lui-même, où ils vont aussi avoir un rôle, par exemple, de régulation des prédateurs, etc. Mais donc, la disparition de ces marges est aussi une disparition de l'habitat des insectes. Et donc ça, c'est un élément important. Ce qu'ils ont identifié comme une des causes, c'est les méthodes de protection des cultures. Bon, donc essentiellement, les insecticides, herbicides et autres produits qui sont diffusés. Et aussi, dans l'intensification, c'est aussi les formes de fertilisation. La diminution qui aujourd'hui a atteint un niveau presque ultime, je dirais, la disparition des fumures animales, hein, des fumiers, des composts, enfin animal ou végétal d'ailleurs, des composts, etc., des engrais verts, etc. Donc on est dans, ça fait partie de l'intensification. On remplace tout ça par des formulations chimiques, hein, qui n'ont pas du tout le même effet, sur la, notamment sur la faune du sol et sur, les, et sur d'autres espèces, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils ont travaillé sur les insectes volants. Hein, leur protocole portait sur les insectes volants. On pourrait aussi développer ça. Il faudrait peut-être le faire, hein, mais on voit qu'on n'a pas forcément le recul. On n'a pas 27 ans pour le faire. Sur les insectes du sol, par exemple. Hein, là, il y aurait certainement quelque chose à trouver aussi. Mais on risque, malheureusement, je dirais, d'aboutir à des résultats au moins équivalents, quoi. Alors, on va nous dire aussi, oui, mais bon, c'est en Allemagne, bon, c'est pas en France. Sauf qu'on est dans des conditions, on ne peut pas dire que l'Allemagne, ça se passerait au Brésil, je dirais, bon, on peut discuter peut-être des résultats. L'Allemagne est quand même très proche de nous en termes de pratiques agricoles, en termes de système de production, on n'est quand même pas très éloigné. Donc c'est certainement des résultats transposables à l'ensemble de l'Europe occidentale, au moins. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut corréler avec les observations qu'on fait les entomologistes de terrain. Moi, je sais que, bon, je ne suis pas tout seul, on se rencontre souvent, on discute, et tous, depuis plusieurs années, on fait ce constat-là. On dit, bon, il y a moins de bêtes. On se retrouve quelquefois, comme ça m'est arrivé au printemps, avec un collègue, parce que c'était une sortie qu'on a fait pas très loin, sur le sommet du Cousson, là, dans les prairies qui sont au Cousson, on était absolument désolés, quoi, de la pauvreté de ces écosystèmes qui sont pourtant, qui ont tout pour être riches, quoi, je veux dire, hein. A priori, on dirait qu'on était éloigné des lieux de pollution. Il faut croire que non. Alors on peut peut-être avancer quelques hypothèses après, mais voilà. Donc ça, ces observations là on peut les corréler avec des observations un peu empiriques qu'on a pu faire les uns et les autres. Et il y a une anecdote que tout le monde peut voir, c'est que quand vous avez, qui est d'ailleurs cité dans le l'étude dont je parle, c'est que autrefois, je dirais, enfin, je ne peux pas mettre une date, mais je dirais autrefois, quand on faisait un parcours un peu long en voiture, si on allait jusqu'en Bretagne ou même dans la région parisienne, le pare-brise était bien sale. Bien, il fallait sale. S'arrêter, hein, pour nettoyer
beaucoup
un peu ça.
De cadavres.
Voilà.
De...
Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous arrêter.
C'est vrai.
Au mieux, un petit coup d'essuie-glace et puis c'est bon. Mm-hmm. Au pire, plutôt. Mm-hmm. Voilà, bon, bah, c'est quelque chose que tout le monde peut voir et c'est pas, ça correspond effectivement au nombre d'espèces. Alors là, on n'a pas déterminé les espèces. Hein. On voit le nombre et on se rend compte que finalement, sur la surface du pare-brise, ça représente pas grand-chose. Hein, ça donne une idée de la densité d'insectes qu'on a pu voir à ce moment-là et de celle qu'on a comparée avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est un... Alors, donc c'est quelque chose qu'on constate aussi, pas seulement dans les espaces de culture. Hein, alors, il y a un élément qu'on peut évoquer par rapport à ça, qui n'est peut-être pas suffisamment connu, c'est ce qu'on appelle les aérosols. C'est-à-dire, quand il y a une diffusion il y a énormément dans l'atmosphère, énormément de substances en suspension. Quand un agriculteur pulvérise un produit quelconque, il y en a, alors il y a des travaux qui ont été faits là-dessus aussi, il y en a au moins 20% qui partent dans l'atmosphère.
Qui partent ?
Qui partent. Mmh. Dans l'atmosphère, qui sont emportés par le vent, etc. Donc, ils diffusent partout. Et ces produits, ou leurs produits de dégradation, parce qu'après, ils sont dégradés dans l'atmosphère, donc les produits de dégradation, on ne connaît rien de leur toxicité, pour la plupart. Certains sont soupçonnés d'être plus toxiques encore que le produit initial. Ces produits-là diffusent absolument partout. on retrouve des pesticides dans les glaces de l'Antarctique. Hein, pourtant, personne ne fait des traitements par là-bas. Donc, on a une espèce de phénomène de pollution généralisée dont on ne connaît pas ni les composants, ni les interactions entre ces composants, que peuvent avoir éventuellement ces composants entre eux, ni leurs effets sur la faune et la flore. Voilà. Alors, donc, c'est une explication. Alors, il n'y a pas que l'agriculture qui est responsable, je dirais, de ces éléments-là, parce que l'aérosol, il en est produit par d'autres, par les industries aussi. Hein. Mais une grande partie de ces éléments, si on pouvait déjà en diminuer l'impact, ça serait déjà une bonne opération, quoi.
On fait une pause musicale.
Allez, alors bon, j'ai apporté un morceau de musique. Bon, c'est pas très gai, hein, mais bon, en même temps, si on dit ce genre de choses, c'est peut-être une espèce de c'est parce aussi parce qu'on voudrait pas que ça, pas en arriver là, quoi.
D'accord. Ça s'appelle Plus rien et c'est par les Cowboys Fringants.
Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons. La fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Retombent les mouches. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Plus rien par les Cowboys Fringants, c'est pas très joyeux, Pierre Frappin.
Oui, c'est
mais
pas très joyeux.
Vous allez peut-être nous apporter une petite touche.
Ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais un peu en préliminaire avant la chanson, c'est que si on en parle, c'est parce qu'on espère bien pas en arriver là, sachant que la critique que je ferai par rapport au message qui est porté, c'est que c'est peut-être pas forcément plus gai d'ailleurs, mais c'est que en fait, la Terre s'en sortira, la nature s'en sortira. Parce que les extinctions de masse, il y en a déjà eu dans l'histoire géologique. Et la biodiversité, pour utiliser le terme juste aujourd'hui, s'est reconstituée après cette disparition massive. Sauf que cette reconstitution, elle a pris 10 ou 20 millions d'années à chaque fois. Mmh. Et on n'a pas le temps. Donc c'est pas du tout à l'échelle humaine. Donc la Terre et la nature survivra.
Voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle.
Voilà, mais peut-être qu'on ne sera plus là pour la regarder. Voilà. C'est ça qui m'embête. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien qu'il puisse.
Nous,
quand
on
même,
va, on va pas pouvoir se transformer en mutants.
Voilà. Non. Alors, par contre, sur une très longue période, effectivement, on peut penser que les phénomènes d'évolution s'appliquent aussi à l'humanité, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une espèce de post-humanité, c'est-à-dire d'autres espèces qui apparaissent à partir de l'humain, à partir de l'espèce humaine, et qui puissent donc pérenniser l'espèce, cet héritage-là. Sauf que les espèces qui ont disparu n'ont pas de descendance. Hein, voilà. Donc peut-être que à ce moment-là, dans cet avenir très lointain et un peu, voilà, un peu triste, je dirais, pour nous, peut-être que apparaîtra un jour une autre espèce intelligente, capable de conceptualiser, etc. Mais sauf que elle viendra peut-être des rats, des fourmis, des dauphins hein, ou des poulpes. Voilà. Voilà. Alors donc. Bon, je voulais, pour terminer ce que pour continuer ce que je disais tout à l'heure, on voit que cette question-là n'est pas indépendante aussi des autres actualités dont on parle beaucoup en ce moment sur les néonicotinoïdes, le glyphosate et autres. Alors, ces deux produits-là, ces deux types de produits, sont un peu des produits phares, je dirais, en quelque sorte. Mais il y a tout le reste quoi, hein, qui mériterait autant qu'on en parle aussi. Hein, et je crois que ce qui serait intéressant, ça serait d'utiliser aujourd'hui le fait qu'il y a ces questions-là qui sont mises en avant à travers ces produits-là pour parler de la question de façon un peu plus globale. Mmh. Hein, voilà. Et puis... Je parlais au début de l'émission là, de deux événements qui étaient survenus, deux événements médiatiques récents. Le deuxième, c'est un appel qui a été lancé par des scientifiques à l'échelle internationale, qui a été aussi relayé par la presse, qui a été signé par que 15 000 scientifiques à travers le monde. Le monde entier, hein, d'une centaine de nations différentes, et qui est une mise en garde, de l'humanité hein, par rapport à la dégradation des écosystèmes. Et ça, c'est aussi parce que bon, ils se sont rendus compte que finalement, cet appel avait été fait donc, il y a 25 ans, je crois. Un peu dans les mêmes conditions, et que finalement, bon, ça n'avait pas changé grand-chose. Donc, ils ont renouvelé cette opération, ben, un peu comme on le fait, un peu comme je le fais là, d'une certaine façon, de jeter une espèce de bouteille à la mer, sauf qu'ils ont plus de moyens, quoi, je dirais. Quoi, hein, mais je pense qu'il faut essayer de relayer ce genre d'initiative. Et voilà, donc... Je voulais lire un peu la conclusion de leur étude, il y a 5 ou 6, il y a une dizaine de lignes. Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, L'humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd'hui. Bien que cette recommandation ait déjà été clairement formulée il y a 25 ans par les plus grands scientifiques du monde, nous n'avons, dans la plupart des domaines, pas entendu leur mise en garde. Il sera bien trop tôt tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l'échec. Car le temps presse. Nous devons prendre conscience, aussi bien dans nos vies quotidiennes que dans nos institutions gouvernementales, que la Terre, avec toute la vie qu'elle recèle, est notre seul foyer. Voilà. Alors, cet appel-là, moi, je crois que... Alors, le problème, c'est que les scientifiques, on leur fait toujours un peu un procès en légitimité, quoi, hein. On dit, bon, ils sont dans leur laboratoire, c'est bien, mais enfin, bon...
Ils cherchent, mais il faudrait qu'ils trouvent, c'est ça.
Alors, c'est une boutade qu'on trouve même dans les laboratoires. Moi, j'ai entendu, on va dire, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Hein, cette remarque qui leur est lancée un peu, qui nous est lancée un peu à la figure, quoi. Hein. Mais en même temps, on se rend compte que beaucoup de choses qui étaient un peu annoncées, je dirais, par exemple, sont déjà aujourd'hui dans la réalité. Hein, je parlais tout à l'heure de ce qui se passe des insectes. Donc je pense que là, il faut à nouveau se reposer ce genre de questions pour pouvoir essayer d'intervenir, quoi, si on peut, si tant que faire se peut. Quoi. Voilà. Alors, moi, je voulais ici faire le lien avec... parce qu'on parle là des insectes dans le monde, on a parlé des insectes dans le milieu agricole, mais il n'y a pas que les espaces voués à l'agriculture qui sont menacés, je dirais.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a aussi face à une régression d'un certain nombre d'autres types d'espaces. Alors, aggravé en plus par les évolutions. On voit cette année les quantités d'eau sur la région ont été catastrophiquement basses. Quoi, hein. Donc ça aussi, évidemment, un effet. Hein,
on a beaucoup besoin d'eau pour vivre, mais les insectes aussi.
Aussi, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils en ont besoin directement, parce que d'abord, il y a un certain nombre d'insectes aquatiques, mais ça, c'est un peu particulier, mais il y a aussi même les insectes terrestres, toutes les espèces. L'eau est un élément essentiel à la vie. Quoi, hein. On voit dans les déserts, il n'y a pas beaucoup de vie quand il n'y a pas d'eau. Par contre, quand il pleut, c'est une explosion de vie. Donc, on est bien dans le même cas de figure. Donc, tout ça, ça aggrave ces phénomènes-là qu'on peut voir par ailleurs. Et sur les espaces forestiers, je voulais faire le lien avec un autre élément dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est avec les centrales à biomasse qui sont une menace sur les espaces forestiers, donc aussi sur les insectes forestiers. Hein, et moi, je parlais tout à l'heure de l'importance des insectes dans la décomposition, hein, dans la formation des humus, y compris des humus forestiers. Hein, donc la survie de la forêt est aussi liée à la survie des insectes forestiers. Et ça, toutes les menaces qui sont pas seulement actuelles, hein, qui sont relativement anciennes. On a vu effectivement aussi régresser depuis très longtemps beaucoup d'espèces forestières avec l'intensification et déjà même certainement depuis beaucoup plus longtemps encore. Hein, il est probable que l'extinction a commencé il y a longtemps, hein, parce que les grands espaces forestiers, les très grandes forêts ont beaucoup régressé depuis des siècles. Donc voilà, mais ce phénomène-là est en train de s'aggraver parce qu'il y a de nouveaux facteurs qui interviennent dessus. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, je crois qu'il faut faire, il faut essayer de faire une espèce de lien entre tous ces phénomènes-là pour voir que il y a une espèce de fil conducteur, quoi. Il y a une continuité de l'un à l'autre. Et je crois que il faut prendre conscience de l'importance des insectes, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, et pas seulement des papillons de jour, des coccinelles, des abeilles, dont on parle beaucoup. Alors
c'est ceux qu'on accepte le plus facilement, voilà, parce qu'ils sont jolis.
Voilà, mais ils sont jolis, on ne se pose pas la question de leur utilité ou de leur fonction, ou leur fonction, mais ils font, c'est dans le décor, quoi. Voilà. Et alors, sur les abeilles, on en parle un peu plus par rapport à la pollinisation, on voit bien l'importance, etc. Sachant qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques qui font de la pollinisation. Il y a des centaines et des centaines d'autres espèces qui sont concernées, d'ailleurs, par l'étude dont je parlais tout à l'heure. Hein. Les insectes volants incluent, effectivement, tous ces pollinisateurs. Donc là, mais ils ne sont pas les seuls. Hein, je parlais tout à l'heure du nombre d'espèces présentes. On voit bien qu'on est largement au-delà de ces petits groupes un peu médiatiques. Il y a énormément d'espèces qu'on ne voit jamais, même des fois de grande taille. Moi, j'ai des boîtes comme ça, vous savez, de présentation que je montre parfois dans des foires ou des trucs comme ça. Et quantité de gens, alors la première chose qu'ils voient là-dedans, ils me disent, tout ça, ça vient de chez nous. Oui. Ben oui, ça vient de chez nous, mais j'ai jamais vu ça. Et effectivement, la plupart des gens n'ont jamais vu beaucoup de ces espèces-là. Beaucoup sont toutes petites, mais même certaines grosses sont peu visibles. Parce que souvent, beaucoup se cachent, sont mimétiques, etc. Quoi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on pourra inverser la tendance?
Oui, hein, est-ce qu'on peut réinjecter des espèces d'insectes?
Alors, c'est difficile. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où les prendre, d'une certaine façon. La question, c'est plutôt... La question à se poser, c'est plutôt comment faire pour donner un espace de liberté, je dirais, aux espèces qui subsistent, qui sont la majorité, aujourd'hui, les disparitions, je pense qu'elles sont relativement peu nombreuses. Les espèces existent toujours, mais à un état, j'allais dire, plus ou moins résiduel, quoi. Hein. Mm-hmm. Mais si on les rencontre, si on les trouve encore, c'est qu'elles sont encore présentes en nombre suffisant pour éventuellement avoir une reconstitution des populations, sous réserve qu'on leur en laisse la possibilité. Donc qu'on inverse les facteurs qu'on a vus, dont on a parlé tout à l'heure, hein, les facteurs qui font que voilà, on est dans cette chute. Mais là aussi, le risque, c'est qu'on arrive à alors ce que certains appellent l'effondrement des écosystèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, les conditions ne sont plus remplies pour que l'édifice très complexe que constitue un écosystème tienne debout. Si un élément important, une brique importante disparaît, à ce moment-là, le risque c'est que le système entier s'effondre. Et là, on est dans la catastrophe absolue. Je dirais.
Alors, qu'est-ce que chacun peut faire? France Nature Environnement donc se bat pour préserver la nature.
Non, nous, ça veut dire qu'on se nous, en tant qu'association, on essaie d'abord d'intervenir, y compris juridiquement, je dirais, mm-hmm. hein, sur des interventions qui peuvent apparaître comme néfastes, hein, soit à la qualité des eaux, par exemple, soit à des pratiques agricoles qui paraissent abusives. On ne peut intervenir que dans la mesure où ces pratiques sont illégales. Aujourd'hui, malheureusement, je dirais, beaucoup de pratiques sont légales, même si elles sont nocives. Chaque fois qu'on peut, on intervient par rapport à ça, avec des moyens qui sont ceux d'une association ou d'une fut-elle FNE au niveau national, quoi, hein, qui sont forcément modestes par rapport à d'autres. Et puis, on intervient aussi en essayant de faire passer des messages... comme on l'a fait cet été sur le sol, comme on essaie de le faire là, sur les insectes, de façon un peu plus particulière. Quoi, hein. Voilà, mais ces moyens-là restent relativement modestes, même si parce qu'on n'est pas très nombreux, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, etc. Voilà, alors, après, moi, la dernière chose que je voulais dire aussi, non, jamais épuisé le sujet, quoi, hein, mais que... revenir aussi, y compris par rapport à la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, c'est que de toute façon l'humanité disparaîtra avant les insectes, hein, donc la vie continuera, y compris celle des insectes.
Mais voilà, ça pas... c'est le message d'espoir pour les insectes.
Voilà. peut-être plus pour eux que pour nous, quoi. Hein, bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, et puis chacun aussi, après, même si c'est modestement, dans son jardin, dans la gestion de ces effluents, de pas gaspiller l'eau, y compris ça a aussi un effet sur
éviter dans les maisons d'utiliser des odorisés, alors que des fois simplement gratter une allumette enlève les mauvaises odeurs.
Et puis se dire que les insectes sont pas si répugnant, horrible.
Il faut se pencher pour mieux les accepter.
Quelquefois, il faudrait y regarder plus près pour voir. Alors, bon, moi, parce que c'est ma passion et mon activité, c'est vrai que j'ai tendance à trouver des choses belles. Mais il y a beaucoup de gens, quand on leur montre un certain nombre de choses, même s'ils sont un peu réfractaires, ils disent « Ah ben oui, c'est vrai que c'est très beau. » Voilà, donc il faut rester un peu de cette optique-là. Bon, il y avait...
Alors, Pierre Frappa, merci pour cet éclairage sur les insectes.
Un peu sombre, mais
voilà.
Un peu sombre, l'éclairage.
On rappelle que l'émission « Un moment pour la Terre », c'est chaque dernier mercredi du mois. Et avant de nous quitter, vous allez nous donner quelques rendez-vous. Il nous reste quelques minutes.
Voilà, j'avais quatre rendez-vous à rappeler. D'abord, il y a une conférence demain, le 30 novembre, c'est bien demain.
Hein. Oui.
Le 30 novembre à Château Arnoux, une conférence sur le thème « Famille zéro déchet ».
Hein, donc à quel endroit, Château Arnoux ?
À 18h30, à la salle des fêtes de Château Arnoux, organisée par l'association J'espère. Le deuxième annonce, c'est la fête des fruits et saveurs d'autrefois à Manosque, au domaine de la Thomasine, organisée par la Maison de la Biodiversité et le Parc Naturel Régional du Luberon. Alors, FNE y participe avec un stand et une expo, FNE 04. Mm-hmm. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est en lien avec nous. Annoncer aussi qu'à partir du 4 décembre, il a lancé un partenariat avec l'entreprise Terdoc à Villeneuve. Alors, en fait, une part de chaque achat de thé effectué au magasin d'usine de la zone d'activité de Villeneuve sera reversée à FNE 04 pour le développement de ses actions en faveur du développement. C'est-à-dire qu'on a passé un accord avec cette entreprise qui est intéressée aussi à faire ce genre de valorisation. Donc, le magasin d'usine est ouvert de 9h à 19h en zone d'activité de Villeneuve. Et puis, une quatrième chose, c'est je reparlais des sols tout à l'heure. Alors, l'affaire n'est pas encore enterrée, puisqu'on peut encore voter jusqu'au 31 décembre pour que FNE 04 publie un livret sur la protection des sols, dans la continuité de l'action qui a été conduite pendant l'été avec le musée Gassendi à Digne. Donc, il faut aller sur... Il y a une adresse Internet, http://protect.atlantique-nature.fr Atlantique avec un C.
Avec un C.
http://protect.atlantique-nature.fr
D'accord. Ça, c'est pour aller voter.
C'est pour aller voter, pour obtenir la publication de ce livret de protection.
Pierre Frappa, merci beaucoup. C'est déjà l'heure de nous quitter. Et on se dit à bientôt.
À une prochaine. Voilà. Pour essayer de parler de choses plus gaies.
Voilà, on va essayer. Au revoir.
Au revoir.